Les marchandes de sable spécial Mouche s'en va en guerre de Erika Certain. Chapitre 1er. Les fantaisies de Quick le caniche. Quick! Quick! Arrive ici! Oh, mon Dieu, il est fou! S'écria Mouche. Le caniche avait bondi soudain en avant, avec une telle violence qu'il arracha la laisse des mains de la petite blondinette, la faisant presque tomber. Quick, où vas-tu? Reviens! Le chien noir, si docile à l'ordinaire, était parti en aboyant sans se soucier des appels de sa jeune maîtresse et des deux petites filles qui l'accompagnaient. Les trois amis se promenaient dans la forêt courant la colline qui s'élevait devant le village de Chavania, situé sur les contreforts du massif central. Le caniche ne parcourut qu'une vingtaine de mètres, puis s'arrêtant net, il aboya de nouveau en appuyant son museau contre une sorte de mur naturel bordant le ravin que gravissaient les fillettes. Elles coururent vers lui, et Mouche voulut reprendre la laisse. Mais Quick était déchaîné. Il commença de gratter la paroi avec de telle ardeur que sa maîtresse, étonnée, dut le laisser agir à sa guise. Que peut-il chercher là-dedans ? Se demanda-t-elle. Il n'y a rien. La bosse de terrain avait plusieurs mètres de hauteur et était formée de couches horizontales de rochers reposant sur une base de terre sablonneuse. Jacotte, l'aînée des deux fillettes qui était avec Mouche, dit alors : Enfin, Quick, tu exagères. Il n'y a rien à trouver par là. « Viens vite, nous devons monter jusqu'en haut de la forêt pour cueillir des érelles. » Le chien se moquait bien de tout ce qu'on pouvait lui dire. Il creusait son trou avec acharnement. La terre friable du soubassement volait sous ses pattes. Il s'interrompait par instant pour enfoncer son museau dans la cavité qui s'agrandissait sous ses efforts et, satisfait sans doute, reprenait de plus belle. « Je ne l'ai jamais vu aussi acharné, » fit Mouche mécontente. « Laissons-le faire si ça l'amuse, » dit Martine, la plus jeune des trois. « Il va finir par se faire mal, » lança Jacotte. « C'est bien ce que je crains, » approuva Mouche. Elle voulut s'approcher pour le prendre par son collier, mais reçut dans la figure un jet de terre qui la fit aussitôt renoncer à ce projet. Le chien avait déjà la moitié du corps dans le trou et continuait sa curieuse besogne avec d'autant plus d'ardeur. Ses pattes faisaient jaillir de petits nuages de sable. Soudain, il s'enfonça dans l'orifice qu'il venait de creuser. La laisse qu'il traînait après lui suivit le mouvement et disparut à son tour. Mais c'est profond ce qu'il a fait là, dit alors Mouche, subitement inquiète. Ce n'est pas un trou, c'est un tunnel, reprit Jacotte. Les trois enfants s'agenouillèrent devant l'ouverture et leurs petites têtes se joignirent pour regarder où pouvait être le chien noir. Mais il n'y avait qu'une obscurité profonde et les aboiements de Quick seuls indiquaient sa présence. Ah, pourvu que ce ne soit pas le terrier d'une grosse bête! Fit alors Mouche. Oh ! Fit Jacotte en frissonnant un peu. J'ai entendu dire à notre papa la semaine dernière qu'un chasseur avait tué un ours dans la montagne, pas très loin d'ici. Un ours ? Un gros ours ? Demanda Mouche, effrayée. Il paraît qu'ils ne sont pas tous gros par ici, mais très dangereux tout de même, puisqu'on les cherche pour les tuer. Mais alors, Quick court un danger terrible ! S'il en trouve un, il va lui sauter dessus. Ils se battront et la vilaine bête va le dévorer. Oh, Quick, mon bon Quick! Sans compter que si l'ours sort, il va nous manger aussi, ajouta Martine d'une voix tremblante. Mouche se rendit compte du péril que l'imprudence du caniche faisait courir à ses petites amies et à elle-même. Il faut faire quelque chose, gémit-elle. Appelons au secours. Mais y a-t-il quelqu'un dans la forêt? Pour ça, oui, répondit Jacotte. Il y a des bûcherons qui coupent du bois. Ils ne sont pas loin, puisqu'on les entend qui abattent des arbres. Ils ont tous de grandes haches et pourront nous défendre. Cours les chercher. Comme votre père est le brigadier de la gendarmerie, ils n'hésiteront pas à courir à ton appel. Sauvons-nous bien vite, nous aussi, reprit Martine, qui avait presque les larmes aux yeux. Nous ne pouvons pas rester là, si un ours sortait. Mais alors nous abandonnons Quick, murmura Mouche, désolée. Il vaut mieux qu'il se débrouille tout seul en attendant. Parce que si l'animal arrivait et qu'il vous dévore, toi et ma petite sœur... Les fillettes épouvantées allaient s'enfuir en courant vers le champ entier des bûcherons, quand à leur grand soulagement, le chien réapparut. Il avait l'air un peu déçu, mais ne semblait pas avoir livré un combat furieux. car bien qu'il fût couvert d'une terre brunâtre, il se portait parfaitement. Quick n'a pas rencontré l'ours, s'écria Jacotte d'une voix rassurée. Cela vaut certainement mieux, fit Mouche. Mais dans quel état il s'est mis ? Viens ici, désobéissant, que je te nettoie. Elle arracha des feuilles de fougère, en fit une sorte de plumeau, et se mit à épousseter vigoureusement le caniche qui n'avait pas l'air d'apprécier ce nettoyage. Ne restons pas là, conseilla Jacotte. Si l'ours surgissait. Voyons, il ne peut pas y avoir d'ours, et c'est bien heureux parce qu'il serait déjà sorti. Oui, mais c'est peut-être très profond. S'il a entendu Quick et que le chien l'ait dérangé, il va être furieux. Reprends la laisse et filons vite. Mouche regarda le trou qui apparaissait comme une menace béante. Tout de même, reprit-elle pour rassurer les autres autant qu'elle le pouvait, un ours ne pourrait pas sortir de là. Il est vrai, continua-t-elle, que la terre est si friable qu'il ne lui faudrait pas un grand effort pour se glisser au dehors. S'il se montre quand nous serons partis et descend vers le village, on va crier que c'est notre faute, remarqua Jacotte. Oui, approuva Mouche, de plus en plus ennuyée. Et comme le chien m'appartient, on dirait que c'est la mienne. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui passent par ici ? Je ne crois pas. Seulement cet endroit, qu'on appelle le ravin sec, parce qu'il y coulait autrefois une sorte de torrent, reste le plus court chemin pour les gens qui veulent aller à l'autre village, sans descendre jusqu'à la route. En ce cas, la meilleure chose à faire pour le moment est de cacher la sottise de Quick. Nous allons masquer ses dégâts avec des feuilles et des branchages. Mais toute cette terre qu'il a rejetée en dehors, il faudrait la balayer. Sauvons-nous, implora Martine. J'ai si peur. Dépêchons-nous de recouvrir tout cela et filons, conclut Mouche. Les trois fillettes dissimulèrent assez facilement l'orifice sous un amoncellement de feuillage, puis reprirent le chemin du village. Comme nous ne savons pas exactement ce que Quick a fait dans le trou, dit Mouche, le mieux serait de n'en parler à personne. En effet, ce n'est pas la peine de le dire, ajouta Jacotte, parce qu'on commencerait par nous gronder et on se moquerait aussi de nous. Et puis au fond, qu'est-ce que cela peut faire, un trou de plus ou de moins dans la forêt ? Si tu veux, dit alors Jacotte à Mouche, pour retourner au village, nous descendrons le ravin jusqu'à la lisière de la forêt. Là-bas, il n'y aura plus rien à craindre, sans doute. Nous passerons par l'endroit où il y a une belle vue sur la grande vallée, et le camp de vacances se trouvera juste devant nous, en contrebas. Lorsqu'elles eurent grimpé sur une plateforme rocheuse, les fillettes virent devant elles un splendide panorama. Une vaste clairière se prolongeait en une vallée verte continuant au loin, entre deux collines, par-dessus lesquelles on apercevait des cimes de hautes montagnes. Au pied de leur observatoire naturel, le terrain descendait en pente brusque. Elles purent voir la colonie de vacances, deux grands baraquements clairs et propres, autour desquels s'ébattaient une cinquantaine de garçonnets, tous habillés à la manière des scouts. Auprès du premier baraquement, une dizaine de gamins étaient occupés à scier du bois. Les grosses branches à débiter étaient disposées sur des chevalets en forme d'X, et une longue scie était maniée par deux jeunes gens tirant de leur côté l'un après l'autre, tandis que les autres les exhortaient par des cris joyeux à mettre du cœur à l'ouvrage. « Tiens !» s'écria Jacotte. « Celui qui tient le bout de la scie à gauche, c'est Polo ?» Mouche reconnut son petit camarade et éclata de rire. « Eh bien » dit-elle, « cela le change de ses anciennes habitudes, lui qui était si paresseux. »« Papa a raison !» décréta Jacotte. « Le camp donne de bonnes leçons aux garçons, et ils apprennent bien des choses. » La fillette ne voyait pas bien ce que pouvait gagner Polo en apprenant à se servir d'une longue scie, car à son retour, sa mère lui interdirait certainement de toucher à semblable instrument. Cependant, elle approuva ce que disait Jacotte pour ne pas avoir l'air de contredire son père, le brigadier. Ce jeune Polo était un bon camarade pour Mouche. Le père de la petite fille était malade en Savoie et sa mère, assistante sociale, ne pouvant prendre de longues vacances, Mouche passait ses congés scolaires près du Havre chez son oncle, frère jumeau de son père et dont elle était aussi la filleule. Celui-ci, industriel et célibataire, adorait la fillette. Il en était de même pour le personnel de la maison, le chauffeur Albert et la cuisinière Betty. Cette dernière avait deux fils, Loulou, âgé de 13 ans, et Polo, qui venait d'en avoir 9. Ils étaient les meilleurs amis de Mouche avec le chien noir. Or, grâce au beau-frère d'Albert, le brigadier de gendarmerie Cortisol, celui-ci avait fait accepter Polo dans une colonie de vacances près de son village d'Auvergne. Mouche, qui avait manifesté le désir de ne pas être éloigné de son camarade, avait été prise en pension pour quelques semaines par Madame Cortisol. Cette aimable personne avait deux filles, Jacotte, de 9 ans, et Martine, de 7 ans et demi. Mouche, qui avait 10 ans, s'entendait fort bien avec elle, et Quick avait été du voyage, naturellement. Ce chien, un caniche fort intelligent, avait été autrefois pensionnaire dans un cirque. Mais son maître d'alors, un clown qu'il avait dressé, était devenu aveugle à la suite d'un accident sur la piste. Il avait fini par mourir dans la misère. L'oncle de la fillette avait recueilli la pauvre bête et Mouche et Quick étaient devenus des amis inséparables. « Tiens !» dit Jacotte quand les fillettes eurent descendu d'une centaine de mètres le Layon qui rejoignait la grande route. « C'est ici qu'habite Zinzin, l'innocent du village !» Elle désignait du moi au milieu... Elle désignait du doigt, au milieu d'un épais fourré, une masure sans fenêtre dont le toit était formé de vieilles tôles ondulées, recouvertes d'aiguilles de pin. En se glissant par un étroit passage dans les ronces, on arrivait à une porte de bois, aux planches mal ajustées, et qui était fermée par un cadenas. De chaque côté de cette entrée était accumulé un fouillis d'objets brisés, et de détritus à faire fuir le chiffonnier le plus endurci. En somme, continua Jacotte, Zinzin habite au milieu d'un tas d'ordures. On lui a plusieurs fois offert de loger au village, mais il n'a jamais accepté. Le pays l'a adopté il y a plusieurs années parce qu'il était pauvre et aux trois quarts fou. C'est pour cela qu'on l'appelle l'innocent. Et tout le monde est gentil pour lui, parce qu'il paraît qu'un innocent porte bonheur dans un village. Il est très ami avec Quick, dit Mouche, et lui donne quelquefois des morceaux de sucre. Mais partons vite, c'est trop sale par ici. En quittant le sentier conduisant à la porte de Zinzin, les fillettes durent enjamber des rondins coupés en deux dans le sens de la longueur. « Que peut-il faire de ces grosses branches ?» demanda Mouche. « Et pourquoi sont-elles fendues ?»« Je n'en sais rien, » répondit Jacotte. « Probablement pour se chauffer l'hiver. Ici, on peut en avoir autant qu'on veut. Mais papa préfère le charbon. C'est parce qu'il en a dans sa gendarmerie. »« C'est dommage, » dit alors Martine en montrant son petit panier vide. « Nous n'avons pas cueilli d'airelles. » »« Tu ne les regretteras pas en mangeant le gâteau que maman a dû nous préparer pour le dessert, » affirma Jacotte. Mais Mouche, qui aurait à l'ordinaire été intéressé par l'annonce du dessert en question, avait oublié sa gourmandise. Cette histoire du trou creusé par Quick l'a préoccupé désagréablement.